Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Pour ce 14e Radio Bark de la 8e saison, nous avons invité Marc Azema, archéologue narbonnais. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je précise, archéologue, tout le monde sait ce que c'est, mais je précise archéologue narbonnais, on va peut-être comprendre dans le corps de l'émission, parce que pour moi, le fait d'être narbonnais, c'est encore un petit peu spécial, parce qu'on vit dans une ville qui, alors excusez-moi de le dire comme ça, qui prétend avoir été une capitale romaine, et dont le commun des mortels n'en voit pas ou très peu la trace. Donc c'est là où l'archéologie, me semble-t-il, prend toute sa valeur. Donc, l'archéologie, aujourd'hui, rappelons quand même Marc Azema, puisque c'est votre métier, c'est votre activité, c'est votre métier, en quoi ça consiste? Quel est le travail ou même la mission de l'archéologue?
Alors, avant de vous répondre, je vais quand même préciser que je suis archéologue et réalisateur. J'ai un double métier que je revendique depuis le début. Je suis également indépendant professionnellement, c'est-à-dire je ne suis dans aucune institution. Je travaille avec les institutions, mais j'ai toujours veillé à garder ma liberté. J'ai les diplômes conséquents pour exercer ces deux activités. Et donc, voilà, j'ai eu cette envie à la fois de faire de la science, mais également de réaliser, de créer des images, qu'elles soient fixes ou animées. Donc ça, c'était juste pour un préambule, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où c'est toujours compliqué d'expliquer qu'on peut avoir deux activités professionnelles. Et moi, c'est quelque chose que je revendique, sachant que mon activité première est quand même celle d'être réalisateur. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir exercer dans le cadre scientifique. Je continue à le faire et j'en suis très fier. Alors l'archéologie au sens large, c'est, vous le savez, hein, c'est étudier l'être humain à travers ses vestiges matériels, c'est la définition de base. Et également, donc, ça consiste à faire des fouilles ou à étudier dans les cavernes, comme je l'ai fait pendant pas mal d'années, les vestiges humains.
C'est-à-dire que là, vous faisiez de l'archéologie, alors vous appelez ça comment, de la préhistoire?
Alors moi, c'est-à-dire que je suis archéologue, mais je suis avant tout préhistorien. Et en tant que préhistorien, je m'intéresse à la préhistoire au sens large, et en particulier j'ai une spécialité, c'est que j'étudie l'art des cavernes, c'est-à-dire le premier art de l'humanité, c'est-à-dire en gros c'est la grotte Chauvet environ moins 35 000 ans, et c'est la grotte Lascaux environ moins 20 000 ans, vous voyez, donc c'est les premières manifestations artistiques et j'allais dire cognitives liées à la culture humaine, quoi, hein, donc aux premiers humains européens, donc ça c'est... Ça, c'est ma spécialité de scientifique.
Oui, de scientifique, voilà. Mais de par vos activités, comme vous êtes narbonnais et que vous êtes donc créateur et que vous aimez produire des images, vous concentrez davantage sur la Rome, la Rome antique.
Alors, c'est vrai que étant narbonnais de naissance, j'ai vécu ailleurs, etc. Je suis revenu m'installer à Narbonne il y a maintenant une dizaine d'années. Je suis intimement attaché à cette ville et très tôt, durant ma scolarité, j'ai découvert le passé glorieux de cette ville. Donc ça, je l'ai découvert en particulier au collège grâce à mon professeur de l'histoire, Monsieur Robe, qui nous a vraiment marqué quand nous étions enfants. J'étais au lycée Jules Ferry, donc j'ai la chance de suivre ses cours et d'avoir été initié un peu au passé de ma ville à travers les visites de l'ancien musée archéologique. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un passé glorieux au niveau de l'Antiquité qui a fait que Narbonne était une capitale. La première fille de Rome a été la première capitale narbonnaise, c'est-à-dire la première capitale en Gaule.
Oui, donc ça, on dit la première colonie romaine. Enfin, c'était véritablement Rome qui s'exportait.
Exactement, c'est Rome qui s'exportait, qui a créé, qui a décidé d'installer sa première grande colonie ici, qui a certainement perçu l'attractivité environnementale.
Le point géopolitique, voilà. D'une certaine façon, déjà c'était peut-être de la géopolitique.
Ah, je pense que c'était de la géopolitique, et puis aussi il ne faut pas oublier, si Jean-Guilaine m'écoute d'ailleurs, il tient à cela, mais c'est qu'il y avait déjà évidemment une implantation humaine, hein, depuis les temps préhistoriques et proto-historiques. Il y a Pêche-Mao autour des étangs, mais il y a également Mont-Laurès, vous le savez, avant Narbo-Marsius, il y avait...
À côté de Malvézy, pour le situer aujourd'hui.
Voilà, il y avait donc une cité, hein, il y avait les Élisiques, etc., qui déjà géraient le territoire, hein, d'une manière également économique, il y avait un port, etc. Mais les Romains, évidemment, étaient opportunistes.
Oui, ils ont donné une autre dimension.
Voilà, ils étaient opportunistes, et puis ils ont eu la capacité à structurer, on le sait, hein, on sait ce qu'est l'Empire romain, et donc ils ont dit, eh bien, voilà, ils ont décidé de créer leur première cité ici, et d'en faire la première grande capitale. Donc, cette notion de capitale est fondamentale, et surtout, moi, je me suis rendu compte... j'allais dire en grandissant, et maintenant c'est une évidence, c'est qu'ils ont complètement compris l'emplacement géographique, la qualité à la fois stratégique pour en tant que zone de circulation, et on voit très bien qu'on est une zone de passage vraiment assez de premier plan pour l'Europe du Sud, mais au-delà de ça, il y a la qualité aussi environnementale des étangs, c'est-à-dire cette gestion des étangs qui se sont appuyés sur cette qualité, sur cette propriété environnementale propice pour en faire un des plus grands ports de l'Antiquité.
Oui, voilà, parce que les Romains sont arrivés par bateau et ensuite ils ont commercé essentiellement à travers la Méditerranée.
Par bateau, après il y a la Via Domitia, ils ont structuré, ils ont créé la Via Domitia à partir de Narbonne, ça aussi on parle de la Via Domitia.
Comme lien terrestre, oui.
Voilà, mais la grande autoroute de l'Antiquité qui reliait la Fille de Rome à Rome et à d'autres parties de la province et puis de l'Empire, c'était quand même la Via Domitia. Et ça a été créé, ça aussi, à partir de Rome, de Narbonne, il ne faut pas l'oublier. Donc il y avait une voie terrestre comparable à nos autoroutes actuelles, et puis une voie maritime qui ouvrait sur l'ensemble du bassin méditerranéen, et en particulier qui reliait à Rome, faisant de Narbonne, du port de Narbonne, le deuxième de l'Antiquité de la Méditerranée occidentale.
Quoi. Ce qui n'est pas rien. Or, paradoxe, aujourd'hui, Nîmes a encore de belles arènes, Arles aussi, et Narbonne n'a plus rien. Donc, Rome à Narbonne, ça passe forcément par l'archéologie.
Exactement.
Et c'est là où l'archéologie narbonnaise prend toute sa signification. Alors, aujourd'hui, on a enfin un grand musée. On a aussi un passé que je n'hésiterai pas à qualifier aussi de prestigieux. Par exemple, des gens qui se sont mis à devenir archéologues, je pense aux époux Sabrier, qui pendant des décennies ont travaillé sur le clos de la Lombarde et ont fait des découvertes, paraît-il, assez exceptionnelles. Je pense que ça... Alors, il y a vous, Marc Azéma, qui est un produit, et le mot n'est pas galvaudé et n'est pas péjoratif, qui est un produit probablement de cette tendance-là, ce prestige de l'archéologie narbonnaise. Il y a Corinne Sanchez aussi, qui est une de vos collègues, qui est narbonnaise également, et qui continue à fouiller, et on va y revenir probablement. Donc, aujourd'hui... s'il n'y a pas d'archéologie, il n'y a presque rien de Narbonne, de romain antique à Narbonne.
C'est vrai que c'est un peu le drame de cette ville, entre guillemets, c'est le fait qu'on ne voit pas la capitale antique, parce qu'après il y a des vestiges médiévaux qui sont formidables, les archevêques, la cathédrale.
Qui eux sont bien debout,
voilà,
s'ils ont été revus par Viollet-le-Duc, mais enfin... Voilà.
Mais c'est vrai que là, donc, on a conscience qu'il y a eu une grande ville médiévale, mais par contre pour l'Antiquité, c'est vrai qu'à part l'Oréum et le clos à Lombarde, on ne voit rien, et encore, ce sont des vestiges assez ténus, quoi, je veux dire, il faut vraiment avoir l'œil exercé, etc. Donc c'est vrai que l'archéologie là a été fondamental pour révéler les vestiges de cette cité aux quatre coins du territoire, parce qu'on sait que la ville elle y est, mais elle est sous nos pieds. Et elle est au niveau des étangs, sous l'eau, quoi.
On va revenir sur les diverses fouilles.
L'archéologie, elle est partout sur le territoire narbonnais. Parce que les Romains étaient partout, parce que les hommes préhistoriques étaient partout, parce que à toutes les périodes ce territoire a été occupé, et c'est ça qui est assez génial. Par contre, ça nécessite évidemment de la fouille, ça nécessite des travaux conséquents, qui fait que pendant longtemps c'est resté à un certain niveau. Et grâce, malgré le fait...
Vous voulez dire confidentiel ?
Oui, parce que moi, je vais vous parler franchement, mais bon, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Paul Tournal au XIXe siècle qui a impulsé l'archéologie
et qui, c'est peut-être pas un hasard, était narbonnais.
Qui était narbonnais, qui a créé la commission archéologique, entre autres le premier musée archéologique, tout ça, qui est vraiment la personnalité importante pour l'archéologie à Narbonne, qui a impulsé l'archéologie à Narbonne, qui a même inventé la préhistoire, comme la notion de préhistoire, il a inventé à travers ses fouilles à Bise Minervois. Donc ça, c'est une personnalité qui est fondatrice, vous voyez, pour l'archéologie à Narbonne. Mais le problème, c'est que J'allais dire lui aussi, c'est qu'il a un peu gardé aussi lui, un peu trop son indépendance, et donc il n'est pas rentré, il a essayé, vous voyez, mais il n'est pas rentré là où il fallait, peut-être
dans le sérail parisien, il n'est pas rentré sérail. Dans le sérail.
Voilà, alors que c'est lui, avant Boucher de Perthes, etc., qui a inventé la notion de préhistoire, qui a eu qui a compris qu'il existait un homme préhistorique avant le déluge, quoi, l'antédéluvienne. Donc ça, c'est lui qui a la pressentissa. Donc c'est quelqu'un qui est fondamental au niveau de l'archéologie, et malgré ça. Malgré cette impulsion, malgré ce qu'il a fait sur la ville, tout ça, c'est vrai qu'on a été un peu négligé par les archéologues, j'allais dire par les archéologues extérieurs, c'est-à-dire qu'il a fallu
officiel,
qu'on se batte.
Officiel,
voilà,
oui.
Officiel. Pourquoi aussi ? Parce qu'on était une petite ville de province, 19e, 20e, et voilà, donc on a toujours un peu souffert ça à Narbonne, et malgré tout, il y a eu des gens très très motivés, comme les époux Sabrier, comme Yves Saulier, enfin, il y a des personnalités du territoire qui ont vraiment qui ont compris qu'il fallait que la capitale était là, qu'il y avait des vestiges à fouiller, et qui ont mis toute leur énergie et leur passion, parce que c'est...
Et leur vie, même.
Et oui, qui étaient aussi des amateurs au sens noble, qui travaillaient à côté, mais qui ont passé toutes leurs heures, leurs soirées, enfin, vous le savez, vie... qui ont consacré pour concernant Maryse et Raymond Sabrier, c'est vraiment une mission essentielle dans leur existence et qui ont contribué à révéler
le Clos de la Lombarde, parce qu'on peut dire
le Clos de la Lombarde,
c'est les époux Sabrier, pour faire court.
Voilà, c'est les époux Sabrier, c'est l'association des fouilleurs autour, les amis maintenant du Clos, etc. Et le GRAN, enfin, les associations narbonnaises qui se sont vraiment motivées à fouiller le site, et qui fait qu'à partir de là, on a compris à partir des années 70 que les vestiges, enfin, on le savait, mais on a compris définitivement que la ville, elle était dessous. Et que, entre guillemets, elle était intacte. Mmh. Quand on voit les fresques murales qui sont sorties du Clos de la Lombarde, c'est magnifique.
Oui, et là, voilà. Et là, ça prend une autre dimension.
Et ça prend une autre dimension, parce que les fresques qui ont été révélées, qui ont été patiemment réassemblées par les époux Sabrier et l'équipe, c'est vrai que ce sont les plus belles collections hors d'Italie. On n'a pas d'équivalent dehors de Pompéi, Herculanum, donc qui matérialisait le fait qu'il existait des maisons suffisamment riches pour avoir ce type de décoration.
Et que la capitale Narbonne romaine, c'était pas un mythe.
C'était pas un mythe. Donc là, il y a quelque chose là aussi de fondateur, une étape très 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 importante.
On touche du doigt en quelque sorte.
Voilà, on avait un focus. En fait, on a trouvé une maison, ou deux maisons. Bon, il y a aussi la basilique paléochrétienne qui est un peu plus proche de nous, mais on a surtout compris effectivement. On a perçu la vie quotidienne de la capitale à travers ces deux, trois maisons, la richesse de l'habitat, c'était des maisons de notables probablement. Et là, on s'est dit, mais c'est vrai que s'il y avait ça, effectivement,
il y avait
la capitale et il y avait autre chose. Mais le problème, c'est ça, c'est que faire une fouille après sur une ville comme Narbonne, c'est compliqué.
Et alors justement, on va terminer cette première partie sur cette question-là, Marc Azéma. L'archéologie, ça n'a pas toujours bonne presse, par exemple, au niveau des urbanistes. Parce que quand on se met à fouiller, ça bloque un chantier, ça bloque des travaux. Et on pourrait citer plein de cas où... On a fait en sorte que l'archéologie n'y mette pas trop son nez. Est-ce que les choses n'ont pas un petit peu évolué à ce niveau-là ? Est-ce que ça ne s'est pas un peu assaini ? Autrement dit, est-ce que les urbanistes n'ont pas aujourd'hui moins peur des archéologues ? Par exemple, je vois, à côté du musée Narbovia, on a trouvé cette nécropole. L'archéologie préventive est venue faire ce qu'elle avait à faire, extraire ce qu'elle avait à faire, mais ça n'a pas, à terme, ça ne bloquera pas l'évolution urbanistique du quartier.
Alors c'est vrai que c'est un sacré dilemme.
C'est un dilemme, ça.
Je fais toujours partie de ceux qui pensent que c'est une erreur de ne pas avoir laissé au jour le site, parce que on ne voit pas la capitale. Et là, on avait la chance d'avoir à proximité du musée quand même un site de valeur. Après, ça, c'est mon intention. Après, j'ai conscience que c'est des moyens considérables, etc.
Voilà, c'est une question de moyens et de choix politiques.
Bon, moi, j'aurais aimé.
On marque une première pause, Marc Azéma. On se retrouve justement pour évoquer de façon un peu plus concrète les gros chantiers archéologiques du moment en Narbonnaise.